vais avoir l'honneur et le plaisir de vous raconter et la plus vieille et la plus belle histoire que nous connaissions.
Le dernier épisode de notre série avec Michel Pastoureau, les textes illustrent sur le Moyen-Âge, Walter Scott et Ivan Noé.
En tant que maréchal de Lys, solennellement je déclare que si l'un des combattants violait les lois de la chevalerie, je m'écrirais mort ou félon. Et, à peine aurais-je jeté mon bâton sur le sol, que l'offenseur serait instantanément exécuté par les archers du roi. Armez-vous donc, preux chevaliers, et gagnez vos postes.
Si le romantisme consiste à retrouver le Moyen-Âge, il n'y a pas meilleur romantique que Walter Scott. Encore qu'il ne s'est nourri de cette inspiration qu'assez tardivement. Son succès de traducteur, de poète, de romancier étant déjà affirmé. C'est à la date de 1819 seulement, alors qu'il approche de la cinquantaine, qu'il publie Ivan Noé, qui lui ouvre une nouvelle carrière. Évidemment, on attendait de Walter Scott l'imagination, plus que la perfection. Ses romans moyenâgeux, Quentin Durward compta aussi beaucoup, ne sont pas nécessairement marqués par la plus stricte exactitude, mais après tout, un roman nourri d'histoire, c'est encore de l'histoire. De l'histoire, il avait d'ailleurs une véritable philosophie. Il écrivait pendant l'âge d'or de l'aristocratie britannique. Aussi voyait-il dans l'idéal chevaleresque la fin de la sauvagerie et le commencement de la civilisation. Le féodalisme participait de la lente montée de l'humanité. Mais, moins obsédé par la prouesse que son héros, Ivan Noé, il lui posait quelques questions bien senties. Le véritable honneur est-il héréditaire? Se demandait-il. Ne se perd-il pas dans l'orgueil de caste? Ivan Noé est maintenant davantage connu par ses adaptations que par le texte initial. Il est bon de revenir à celui-ci.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec vous, encore une fois, Michel Pastoureau, vous me disiez que votre séminaire avait tant de succès qu'il fallait le tenir dans une autre école que l'école pratique des hautes études. Mais enfin, 3 années de séminaire sur Walter Scott, ça a marché ?
Oui, en tout cas, je me suis fait plaisir. C'était il y a une douzaine d'années. J'ai voulu étudier le Moyen-Âge à l'époque romantique et j'ai pris comme exemple Ivan Noé de Walter Scott, un roman qui m'avait passionné quand j'étais jeune. J'ai pensé que parmi mon auditoire, tout le monde avait lu Ivan Noé. Ça n'était pas le cas. C'était un problème de génération. Ceux de mon âge l'avaient lu, les plus jeunes beaucoup moins. Mais quand même, nous avons décortiqué ce roman, replacé dans le contexte du savoir historique dans ces années 1815-1820, et puis essayé de suivre les personnages, car ils sont nombreux, au fil du texte, et de essayer de contextualiser, comme on dit aujourd'hui, chacun des épisodes et chacun des éléments mis en scène.
Mais si je lis votre journal chromatique, que je recommande aux éditions du Seuil depuis le début de la semaine, je vois que vous êtes arrivé à un âge où on aime se faire plaisir, où on aime se raconter.
On aime se raconter, bien sûr, et je ne résiste pas à raconter comment je suis devenu médiéviste. À l'âge de 8 ans, j'ai cessé d'aimer les cow-boys pour préférer les chevaliers, parce que pendant toute une semaine, j'ai vu projeter sur l'écran de la petite ville de Bretagne où je résidais Ivan Noé de Richard Thorpe, 1952, film avec Elizabeth Taylor, Joan Fontaine et quelques autres.
On va y revenir, mais permettez quand même qu'on fasse comme dans votre séminaire, nous sommes à France Inter, tout de même. Et que l'on parle de Walter Scott lui-même, l'initiateur. Alors, c'est un homme dont la carrière avant Ivan Noé était déjà longue et diverse.
Oui, quand il publie Ivan Noé, c'est un homme extrêmement célèbre. Il a refusé quelques années plus tôt le titre de poète national du Royaume-Uni. Il est connu comme poète, il est passé au roman assez tard, 1813. Il a écrit des romans historiques qui se passent en général au XVIIIe siècle, qui ont pour sujet les guerres entre les Écossais nationalistes et les dominants anglais vers le milieu du XVIIIe siècle. Jamais il ne s'était mêlé de Moyen-Âge. C'est un homme qui milite, contrairement à ce qu'on pourrait croire, non pas du tout pour l'indépendance de l'Écosse, mais au contraire pour le rapprochement encore plus étroit du Royaume d'Écosse et du Royaume d'Angleterre. Au début du XVIIe siècle, le roi d'Écosse est devenu aussi roi d'Angleterre. Donc on a un royaume uni qui, en fait, c'est deux royaumes sous une seule couronne, sous un même prince, un même roi, qui est George III, à l'époque d'Ivanhoé. George III, c'est le roi qui règne depuis presque 60 ans et qui est fou depuis très très longtemps. Donc en fait, c'est le régent, le futur George IV, qui gouverne et qui est un ami de Walter Scott.
Alors, il est magistrat dans un comté écossais et il va s'établir dans un manoir qu'il va faire construire pour l'essentiel, à la limite d'ailleurs, de l'Écosse et de l'Angleterre, c'est Abbotsford.
Environ 50 km au sud d'Édimbourg, au bord de la rivière Tweed, dont une partie du cours est la frontière naturelle qui sépare l'Angleterre de l'Écosse. C'est d'une ancienne ferme appelée Clarty Hall, acquise par Walter Scott en 1811, qu'allait jaillir dans un paysage de bruyères et de bosquets typiquement écossais, un château de haute époque. Il règne ici une atmosphère insolite et nostalgique, provoquée sans doute par le mariage anachronique du paysage écossais et d'une architecture gothique très éloignée de celle de l'Écosse médiévale.
Sir Walter Scott était notre arrière-arrière-arrière-grand-père.
Est-ce que la maison est restée en l'état où Walter Scott l'a connue?
Oui, c'est complètement le même. Et toute sa collection des choses historiques, il a arrangé ça comme vous le voyez aujourd'hui.
Lorsqu'on entre enfin dans le grand hall, le côté théâtral de la demeure se confirme. Au mur, sur les grandes boiseries de chêne sculptées, s'entasse un monde d'armures et d'ornements. Des armures du XVe siècle aux cuirasses des lanciers polonais de l'empereur, tout trouve sa place, sans souci de la chronologie. Tandis qu'au plafond, autour de la corniche, les armoiries des clans des comtés frontières mêlent leurs couleurs et leurs symboles héraldiques aux armoiries des ancêtres de Sir Walter qui occupent les écussons du centre du plafond.
L'émission de télévision Bonnes Adresses du passé, vous connaissez ça? Vous avez eu la télévision très tard?
J'avais 14 ans quand elle est arrivée chez moi.
Et vous avez visité à quel âge le château de Walter Scott, pardon, le manoir?
Le manoir, oui, c'est un endroit magnifique. Il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 7 ou 8 ans. J'ai eu du mal à m'y rendre d'ailleurs, parce que n'ayant pas de voiture, j'ai dû changer 3 ou 4 fois de car depuis Édimbourg. Mais j'ai été récompensé. J'étais chez un de mes auteurs préférés. La bibliothèque est encore en place, intacte. Et j'ai été frappé de ce que les livres en français étaient très nombreux dans cette bibliothèque. Mais la femme de Walter Scott était française, ça peut expliquer cela. Et il était un grand lecteur de romans de chevalerie médiévaux, soit dans le texte, soit en traduction, dont Chrétien de Troyes, dont nous avons parlé cette semaine. Et en effet, il y a des armoiries partout dans cette maison, donc l'héraldiste que je suis était extrêmement content.
Et les armoiries sont traitées sérieusement. Il faut que je signale aussi au Seuil, avec Jean-Charles de Castelbajac, vous publiez un bel album, L'Armorial de la Toison d'Or.
Oui, les armoiries sont très bien traitées parce que nous sommes en Écosse, c'est probablement l'endroit d'Europe qui est le plus beau conservatoire de l'héraldique médiévale. Rien n'a changé, rien n'a évolué, les règles sont les mêmes. L'Écosse et la Suisse sont les paradis des héraldistes.
Ouf ! Dites-moi, même doté d'armoiries, Walter Scott, qui avait installé l'éclairage au gaz dans son manoir. Il était quand même plus moderne que vous me semblez vouloir le dire. Il est ruiné. Il avait beaucoup de succès. C'est peut-être parce que le succès grandissait que l'endettement croissait. Et...
Oui, il a fait de mauvais placements. La fortune que lui a rapportée Ivanhoé est considérable. C'est quand même un des plus grands succès de librairie de tous les temps. On a évalué à 6 millions d'exemplaires le nombre de livres vendus entre la date de parution 1819 et la mort de Scott 1832. Cet argent, il l'a mal placé dans l'édition, dans l'imprimerie. C'était pas un homme d'affaires très percutant. Et donc, il a dû payer de très lourdes dettes en se mettant au travail pour accomplir des tâches un peu ingrates dans l'écriture, bien sûr.
Le succès devrait se mesurer aux intérêts que les livres touchent, notamment à cause des adaptations, premières adaptations au cinéma. Dès 1913, l'adaptation de Thorpe dont on va reparler, que vous avez vu à l'âge de 8 ans. Vous n'aviez pas la télévision pour regarder le petit théâtre de la jeunesse de Claude Santelli?
Je crois que la télévision n'est arrivée qu'un ou deux ans plus tard.
Et voici qu'un Noël 1960, Ivanhoé devient un héros du temps des cadeaux.
Eh bien oui, je sais que vous êtes déçu. Oui, aujourd'hui ce n'était qu'un générique, ce n'était pas un nouvel épisode d'Ivanhoé. Je pense qu'en même temps vous n'êtes pas trop étonné que vous saviez déjà depuis 8 jours que le dernier épisode de votre feuilleton favori était passé et que dans un dernier galop de son cheval, Ivanhoé est parti très loin de nos récepteurs, quitte à revenir un jour ou l'autre, nous l'espérons. Eh bien, tandis que vous étiez passionné par cette histoire au cours des dernières semaines, nous n'avons cessé de recevoir du courrier de vous, et spécialement au cours des semaines tout à fait prochaines. En effet, au moment de Noël, au moment du Nouvel An, nous avons reçu un abondant courrier qui nous demandait de transmettre des vœux de Noël et des vœux de bonne année à Ivanhoé. Joyeux Noël, Ivanhoé. Bonne année à Sire Ivanhoé. Merveilleuse année à Monsieur Ivanhoé. Nous étions un peu embarrassés, ne sachant trop s'il fallait transmettre ces vœux de bonne année à Roger Moore, quelque part à Hollywood, ou bien au véritable Ivanhoé dans un coin beaucoup plus lointain, inaccessible, quelque part dans le paradis des héros de légendes et de romans.
Alors au moment où Claude Santelli parle, vous êtes devenu grand, vous considérez de surplomb les enfants plus petits qui découvrent à 8-9 ans la série télé avec Roger Moore, comme vous, vous aviez découvert à 8 ans dans un cinéma paroissial de Bretagne, le film
de Richard Thorpe. 1952, j'avais un camarade de plage dont la grand-mère tenait le cinéma paroissial. Et ce camarade et moi, nous faisions les ouvreuses, non pas tant pour placer les personnes que pour vendre les Esquimaux et en manger pas mal au passage. Mais pendant toute une semaine, donc chaque soir, j'ai vu la projection du film de Thorpe, parfois un peu méprisé par les historiens du cinéma américain, alors que c'est un film hollywoodien du début des années 50, absolument magnifique. Je crois que le Moyen-Âge n'a jamais été aussi bien traité par le cinéma en couleur. Là où je suis sensible, couleurs, vêtements, armoiries, tout est vraiment très bien fait. J'ignore qui étaient les conseillers historiques, mais ils ont fait du bon travail.
Mais les années 50, c'est le premier boom du Moyen-Âge dans le cinéma hollywoodien.
Oui, pour le cinéma hollywoodien, et on a la plus belle attaque de Châteaufort, le plus beau tournoi, le plus beau procès en sorcellerie de toute l'histoire du cinéma.
Eh ben, on va avoir le château, on va avoir le procès en sorcellerie, mais commençons par le tournoi. Alors, le traitement du tournoi, décrivez.
Oui, un tournoi au Moyen-Âge, c'est un combat de groupes, deux camps s'affrontent en terrain qui n'est pas clos. C'est une mêlée confuse, d'où la nécessité d'identifier les combattants par des signes nouveaux. Ce seront les armoiries à partir du milieu du XIIe siècle. Mais un tournoi peut être aussi une série de joutes, c'est-à-dire un combat à la lance où on s'affronte un contre un. Et c'est ce que montre le film. Il y a 5 joutes successives. Ivanhoé affronte 5 chevaliers normands et va vaincre 4 d'entre eux, et pour le 5e, alors qu'il est blessé, il tombe de cheval avant son adversaire.
Mais qui est-il, ce chevalier d'Ivanhoé ? Avance-t-il seul, vraiment ?
Au début, il est un chevalier noir dont on ne connaît pas le nom, comme le roi Richard est aussi un chevalier noir. Richard Cœur de Lion, retour de croisade, libéré après une captivité en Autriche puis en Allemagne. L'Angleterre est divisée, il y a des Saxons et des Normands, deux groupes ethniques. Et Ivanhoé est un Saxon, fils de Cédric, un des derniers chefs saxons. Prince, et il affronte des chevaliers normands, des nouveaux riches en quelque sorte, et c'est plutôt les Saxons qui soutiennent le roi Richard, les Normands seront plutôt du côté du prince Jean, le frère usurpateur du roi Richard.
Qu'est-ce ci, encore un concurrent ? Je croyais que nous avions fait le vide.
Chevalier, votre nom ou votre rang ?
Je tiens mon nom secret. J'ai fait vœu d'allégeance à Richard Plantagenet, roi d'Angleterre.
Êtes-vous normand ou saxon ?
Saxon.
Désignez votre adversaire par le heurt de votre lance sur son bouclier.
Noir comme un corbeau de mauvais présage.
Le sang va vite l'habiller d'écarlate.
Thank you.
Marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Ivanhoé, le dernier épisode de notre série avec Michel Pastoureau. Rien que pour l'écoute de la musique du film Miklós Rocsa, vous êtes récompensé de votre présence toute la semaine.
Oui, pour moi, ça a un effet proustien par cette musique qui est très belle. Je me retrouve à l'âge de 8 ans dans ce cinéma paroissial de Bretagne où j'ai vu le film 5 jours de suite, alors que j'étais un petit garçon qui préférait les cow-boys pendant longtemps, et à partir de cette date, j'ai préféré les chevaliers.
Donc, l'historien, il a besoin d'un état d'innocence comme celui de l'enfance, en fait, pour ne pas porter de jugement, par exemple.
Oui, bien sûr, et c'est tellement fort chez moi que je me demande encore, maintenant que je suis un vieux chercheur, un vieux prof, est-ce que le vrai Moyen-Âge, c'est celui que j'enseigne, celui que je cherche dans des documents parfois complexes, ou est-ce que c'est celui qui est mis en scène par Walter Scott dans ce roman, puis dans ce film qui m'ont tant marqué.
Mais ça a déclenché votre travail d'historien ?
Ça m'a donné le goût du Moyen-Âge, l'envie par moi-même, à côté de l'école, de faire des lectures, des recherches très tôt, puis ça m'a accompagné toute ma vie, au fond. On enseignait à mon époque le Moyen-Âge en classe de 5e, mais on passait assez vite sur cette période du 12e siècle, même si le règne en France de Philippe Auguste était un peu développé, celui de Richard Cœur de Lion en Angleterre était juste mentionné.
Je reviens à l'image du tournoi. Il y a des armes sur les boucliers, parce que j'essaie de savoir pourquoi cette spécialité, cette passion un peu étrange, qui a même étonné vos professeurs à l'école des chartes pour l'héraldique.
Ce sont les plus anciennes racines, en effet, de ma passion pour l'héraldique. Dans le film de Thorpe, l'héraldique est extrêmement bien traitée. Évidemment, c'est une héraldique anglaise, donc inspirée par des manuels et des traités de blason anglais du 19e et 20e siècle. Mais tout est très bien fait. Visuellement, dans ce cinéma hollywoodien, c'est très spectaculaire. Et je crois que ça a préparé mon goût pour l'héraldique, et l'héraldique médiévale spécialement, qui c'est la première graine, au fond, et elle s'est développée un peu plus tard dans un cours de dessin, alors que j'avais 12 ans en classe de 4e.
Parce que vous dessinez beaucoup.
Je dessine beaucoup, oui, tout le temps. Je suis toujours accompagné d'une feuille de papier et d'un crayon pour faire des croquis, des gribouillis, recopier quelque chose. J'aime dessiner.
Mais je suis au regret de vous ramener à votre fonction d'historien sérieux. Ivanhoé ne ressemble pas du tout à l'Ivanhoé du film. Il est couché les deux tiers du temps.
Oui, c'est un héros de roman, et j'aime bien les romans de ce type, où le héros est assez discret, dépassé en termes de fréquence d'apparition, si je puis dire, par d'autres personnages. C'est le cas de l'Ivanhoé de Walter Scott, bien plus présent sont le templier méchant Brillant de Bois-Guilbert, son acolyte le chevalier normand Maurice de Bracy, le père d'Ivanhoé, Cédric le Saxon, l'autre chevalier normand redoutable, parjure, qui s'appelle Réginald Front de Bœuf, le juif Isaac d'York, et surtout les deux femmes, Rebecca et Rowena.
Alors, dans la scène du château, on a promis une scène de château. Vous jouiez, vous, avec des châteaux forts quand vous étiez petit ?
Bien sûr, j'ai joué avec des châteaux forts. J'avais des petits personnages en forme de chevaliers. Ils étaient en plomb, ils n'étaient pas en plastique, mais quand même, j'en ai gardé deux ou trois.
Alors, la scène de château fort, il y a des femmes qui sont captives là, dans le château ?
Oui, Rebecca est captive, le templier Brillant de Bois-Guilbert en est amoureux, en tout cas il est très attiré par elle, elle n'a pas la même religion que lui, ça va poser des problèmes, et il fait tout pour la rendre amoureuse de lui, mais il n'y arrivera pas.
Je vous somme de libérer les captifs que vous détenez, ou de subir siège et assaut. Cette sommation n'est faite qu'une fois.
L'engagerons-nous comme bouffon, l'écorcherons-nous pour son insolence.
Éloigne-toi avant que je ne te fasse rentrer dans la gorge tes piètres vantardises.
Attends de voir de quelle manière je me vante.
As-tu suffisamment d'hommes pour défendre le château? Contre ces manants, deux fois plus qu'il n'est nécessaire.
J'en doute fort. Ils sont ivres d'une haine farouche.
Sonnez l'alarme! Relevez le pont levé, abaissez la herse! Trompette! Appelez les hommes à leur poste! Armez-vous tous! Et courez au pont levé!
À l'assaut, Saxon! Pas de quartier!
Ils vont tenter une sortie par le pont levé. Archers, tenez-vous prêts! Le feu est dans la place. Les hommes devront passer où les flèches ont passé en premier. Peux-tu prendre la barbacane?
Quoi, ce chenil? Ha! À moi tout seul.
Prends-la alors. Ils ne peuvent combattre le feu et les Saxons.
Attendez, Michel Passeron, moi je suis un peu perdu parce que, bon, il n'y a plus beaucoup de cinéma paroissien en Bretagne et on montre ce film dans quelques rares festivals, Bobines et Parchemins par exemple, mais celui qui prend d'assaut le château, là, c'est Robin des Bois, qu'est-ce qu'il fait là?
C'est Robin des Bois qui s'appelle Locksley dans le livre de Scott. C'est un Breton, c'est-à-dire que dans le royaume d'Angleterre à ce moment-là, il y a les Saxons, il y a les Normands et puis il y a les anciens habitants, les Bretons opprimés d'abord par les Saxons, puis par les Normands, réfugiés dans les forêts. Ce sont des rebelles avec à leur tête ce personnage que Scott appelle Locksley, qui est la figure du Robin des Bois de la légende. Et finalement, il fait alliance avec Ivanhoé et avec les Saxons pour le retour du roi Richard, et c'est lui et ses hommes, des manants comme on vient de l'entendre, qui vont prendre le château. C'est la plus belle attaque de château fort de toute l'histoire du cinéma, à coup sûr.
Oui, mais revenons au livre. Les valeurs chevaleresques peuvent être incarnées pour Walter Scott, qui est pourtant un homme de la contre-révolution, un conservateur. Elles peuvent être incarnées par Robin des Bois, par un manant.
Oui, c'était un homme plus ouvert qu'on ne le pensait, Walter Scott. Déjà, il avait épousé une Française, catholique. Oh. C'était pas toujours très bien vu. Et puis, sur ses propriétés, il donnait beaucoup pour les pauvres qui habitaient près de chez lui ou qui dépendaient de lui. En outre, il était magistrat à un certain moment de sa vie, au début, et il avait la réputation d'un homme très bienveillant. Donc, ça peut se lire aussi dans ce texte, dans Ivanhoé.
Alors, bien sûr, son mariage est extrêmement régulier, sa vie de couple parfaite. Il a peut-être une vie de bohème intérieure, comme vous, et il y a deux femmes très importantes qu'il faut que vous nous présentiez. Vous avez dit qu'elles étaient captives. Rowena
et Rebecca. Ouais. Alors, Rebecca, c'est la jeune fille juive qui a soigné Ivanhoé après le tournoi où celui-ci avait été blessé par la lance de Maurice de Brassy. Elle a une réputation un peu sulfureuse parce qu'elle a appris la médecine avec une femme qui a été brûlée comme sorcière. Son père est un des juifs les plus influents de la communauté d'York dans le nord de l'Angleterre. Elle aime visiblement Ivanhoé, mais lui a sa parole engagée avec la pupille de son père, Cédric le Saxon. C'est la dernière héritière du monde princier saxon, Rowena. Elle est plus âgée que Rebecca. Elle est blonde alors que Rebecca est brune. Bref, un contraste assez fort entre les deux femmes. Et visiblement, Ivanhoé est amoureux de Rowena, qui est amoureuse d'Ivanhoé, mais qui sent envers Rebecca un danger. Elle est jalouse de cette très belle jeune femme juive.
Et les procès de sorcellerie contre le judaïsme se renouvellent de génération en génération, et Rebecca elle-même va en être victime.
Je déclare brûler cet infidèle, et avec la même torche rejeter tous les juifs à la mer, et Richard avec eux.
Dans son esprit de justice, le tribunal autorise la prisonnière à présenter sa défense.
Messeigneurs, avant que la prisonnière ne puisse se perdre elle-même devant vous, je demande le droit de lui adresser la parole.
Votre requête est agréée par le tribunal, seigneur chevalier.
Il y a longtemps que votre destin n'intéresse plus vos juges, Rebecca. Vous êtes coupable à leurs yeux. Rien n'arrêtera le procès, mais la sentence risque d'être suspendue si l'accusé avoue.
Avouez quoi ? Des crimes que je n'ai pas commis ?
Vos crimes importent peu. Avouez et implorez le pardon. Ils doivent vous l'accorder, mais à une condition, que vous reniez la foi d'Israël.
Je ne pourrai vivre dans le monde que vous offrez. Il ignore le soleil qui brille et l'air qu'on respire. Il ignore la foi, l'amour et l'honneur.
Quand vous l'aurez quitté, il ne vaudra plus la peine de vivre.
Assez, vous faites perdre son temps au tribunal. Poursuis.
Il est dit dans le jugement présent que l'accusée, Rebecca d'York, est vraiment une sorcière, en proie aux puissances diaboliques et instruite des pratiques démoniaques. Partant, nous l'abandonnons au châtiment qu'elle a mérité. Elle sera brûlée vive.
Arrêtez, messeigneurs!
Ah, le justicier intervient. Vous le présentez comme un homme de réconciliation, et c'est un homme tout de bienveillance aussi, et Walter Scott, le traitement qu'il fait des Juifs est moins défavorable qu'il ne l'est habituellement à son époque.
Oui, c'est un homme conciliant, c'est un homme qui n'avait pas une vie religieuse très très intense. Donc de ce point de vue-là, il devait être tolérant, puisqu'il avait une femme catholique, il avait des amis anglicans, en Écosse même, il y avait des catholiques et des presbytériens. Bref, il est relativement œcuménique et... À l'époque où se passe Ivanhoé, c'est-à-dire à la fin du XIIe siècle, nous sommes dans une période où des pogroms sont réapparus, d'abord en Allemagne, puis de nouveau en Angleterre. Donc il y a une hostilité parfois envers les Juifs et... Walter Salt le rappelle dans le roman, mais il montre qu'il y a une issue et que deux peuples peuvent vivre ensemble.
C'est pas un autoportrait que vous tentez de vous, là, en parlant de Walter Scott ?
Je ne sais pas, non. Je n'ai pas une admiration énorme pour Walter Scott, la personne, mais j'en ai beaucoup pour son roman Ivanhoé. Je ne connais pas assez bien la vie de Scott et la personnalité de Scott. Je me sens un peu différent. Scott manque quand même un peu de fantaisie.
Sa vie de bohème est tout intérieure. Les livres de Walter Scott ont influencé, outre Michel Pastoureau, et avant Michel Pastoureau, bien des historiens.
Oui, directement dans la foulée de l'apparition du roman, fin 1819, des auteurs respectables, des historiens professionnels et de formation, continue Walter Scott, s'intéresse à la conquête de l'Angleterre par les Normands et à la vie de ces envahisseurs normands avec les autochtones depuis quelques siècles, saxons. C'est le cas en France d'Augustin Thierry, le grand historien des années 20, qui en 1825 fait paraître un livre sur l'histoire de la conquête par les Normands et ses suites, et il emboîte le pas à Walter Scott. Il raconte en effet que pendant longtemps, il y a eu hostilité entre Saxons et Normands, ce que les recherches plus récentes ont infirmé complètement. Donc Walter Scott, jusqu'aux années 1860 à peu près, influence la recherche historique, puis après on prend ses distances, et les... critiques littéraires également se sont mis à considérer Ivanhoé comme une œuvre qui n'était pas la meilleure de Scott, voire comme une œuvre mineure. Aujourd'hui, les spécialistes de littérature anglaise ont tendance à mépriser Walter Scott, et les spécialistes de Scott à mépriser Ivanhoé.
Oui, mais
c'est
enfin,
tout à fait dommage.
Les historiens de votre génération, il y en a plusieurs qui sont amoureux de Walter Scott. Je pense que Jacques Le Goff aimait bien Walter Scott.
Oui, il me l'a répété, il l'a écrit, il l'a dit. C'est Ivanhoé qui a fait de Jacques Le Goff, immense médiéviste, un médiéviste.
Vous avez une passion commune aussi, c'est le ballon. Et ça, ce sera peut-être pour une autre semaine. On fera peut-être un jour une histoire du sport avec vous. Parce que qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, une fois Michel Pastoureau disparu ?
Eh bien oui, cette fois, c'est fait. Il est libre, il n'y a rien à ajouter de plus. L'heure est venue, cette fois, de dire adieu, ou pourquoi pas... Au revoir à Ivanhoé. L'heure est venue aussi de dire bonjour à son successeur. Son successeur sur nos écrans, qui s'appelle Jim Lajungle. Je crois qu'il ne vous décevra pas.
On verra si cette promesse est tenue par la marche de l'histoire la semaine prochaine. Merci de votre présence sur 5 épisodes, Michel Pastoureau. Une série sur les textes illustres du Moyen-Âge et sur le Moyen-Âge. Une série préparée par Martin Cellier, réalisé par Stéphane Ronxin, avec aujourd'hui à la technique Élise Christophe.